What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Cinémascope avec autour de nos micros Olivier et Didier pour nous parler de pas moins de 5 nouveaux films et même peut-être, si le temps nous le permet, on se trouvera le temps de revenir avec un petit ciné-club. On a 3 films, Le Bal, Pierrot le Fou, Main basse sur la ville qui vont être proposés sur les écrans. Waouh, ça c'est sympa, les années 60, les années 80 reviennent et on en parlera dans un instant avec vous. Tous les deux, bonjour et merci d'être
bonjour,
autour de ces
bonjour,
micros.
Bonjour.
Et puis Sophie nous accompagne quand même, Sophie.
Bonjour.
Bonjour, tu nous feras un petit point agenda en fin de rendez-vous, mais tu interviens dès que tu le veux. Sylvain est à la technique comme d'habitude et on le salue. Et on commence, bah tiens, avec une bande-annonce, la bande-annonce de Les Miens dont on va parler immédiatement.
Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
4.
Pour ce qui est de l'impulsivité, et la colère, l'agressivité.
Je te baise.
Quoi ?
3.
Pour ce qui est de la tristesse.
6.
Tu te sens vraiment triste ? C'est un trauma crânien franchement grave.
Il s'est passé quoi au juste ?
C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant.
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Merci. Combien on te doit ?
150 euros. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue.
Bah, je vais prendre ton chéquier, doudou.
Alors, j'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là.
Maman, tonton, là, c'est l'exorciste.
On le connaît plus du tout, là.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche.
La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire.
Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Quand tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile,
T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle.
Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi.
On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments.
J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime.
Ça se voit pas.
J'aurais adoré avoir une famille comme ça.
T'es triste? Sur une échelle de 0 à 6, tu dirais combien?
Voilà, on rentre dans la famille de Roche Dizem, 6e long métrage avec Les Miens, récit personnel, film choral, et aussi j'ai lu sous l'influence de Mai Wen.
Oui, plus que sous l'influence de Mai Wen, puisqu'elle participe à l'écriture et puis qu'elle joue. Elle joue Emma, la compagne un peu difficile à fixer de Roche Dizem, à savoir Riyad. Oui, un beau film, et rien que entendre la bande-annonce là dans nos casques, ça m'a rappelé la qualité de certains passages. Enfin, c'est un film effectivement très très touchant, et pas, je dis pas ça de manière un peu rose bonbon, très touchant, et qui peut-être à cause de sa dimension autobiographique. Il s'agit effectivement, tu disais, nous voilà dans la famille de Roche Dizem. Bon, bah, c'est effectivement un peu le cas. Et Roche Dizem a eu un frangin, justement, on en parlera plus tard des frangins, accidenté et qui, suite à son accident, un trauma crânien, je suppose, ou un AVC, avait un peu perdu les filtres. Et c'est un peu ce qui arrive au frère de Riyad Roche Dizem, Moussa, joué très bien d'ailleurs par Sami Bouajila. C'est ce qui arrive à Moussa, qui est un directeur financier d'une entreprise très 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 serviable, plus que serviable, hein, trop bon, trop con, on a un petit peu envie de dire. Pareil avec ses enfants, avec son ex-épouse, la mère de ses enfants, avec sa compagne, enfin, etc. Un type dont on a envie de dire vraiment trop gentil. D'ailleurs, il fait des heures à plus en pouvoir et un soir, une collègue de travail l'invite à passer, à l'occasion de son anniversaire à elle, dans une boîte pour se détendre un peu, etc. Alors, il boit un canon, deux canons, peut-être il est un peu poussé, puis la danse, la fatigue du boulot, etc. Il s'évanouit, puis après on ne comprend pas bien ce qui se passe, on ne sait pas. Mais au réveil, il a un impact à l'arrière de la tête et un gros hématome à l'avant de la tête, ce qui contribue à épaissir le mystère. Et puis alors, bon, il se souvient de rien. Il est un peu triste, il est un peu déprimé. Point de vue cognitif, ça marche très très bien. Mais effectivement, il apparaît très vite qu'il a un peu perdu, lui aussi, comme le frère de Roche disait, il a un peu perdu les filtres. Et il dit aux gens ce qu'ils pensent. Oui, non seulement ce qu'il pense, mais que c'est un homme qui n'est pas bête, extrêmement rigoureux de point de vue intellectuel, etc. Et il dit des choses vraies, quoi. Et comme on sait, il n'y a que la vérité qui blesse, donc ça blesse. Mais ça blesse bien, quoi. Voilà. Mais alors tout le monde en prend pour son grade, tout le monde passe en revue la sœur, qui pourtant est tout au service, le frère, bien entendu, mais les enfants, enfin, etc. C'est assez impressionnant. Alors, on a affaire effectivement à une fratrie, hein, trois frères, un frère Moussa dont on vient de parler, qui a un grand garçon, Amir, une fille, Nesrine, et puis il y a une plus petite fille, Lila. Donc ça, c'est Moussa qui est séparé, qui est seul. Il y a Riyad, joué par Roche Dizem, donc qui est lui un peu une vedette. C'est un présentateur de télé, genre téléfoot, comme ça. Mais bon, il pense surtout à lui, on va dire. Il y a Salah qui est joué par, je vais le retrouver, oui, ben justement par Rachid Bouchareb, dont on va parler un peu plus tard, qui joue d'ailleurs un rôle de migrant tout à fait effacé, un peu ce qu'il demandera de jouer au père d'Abdel dans le film Naufrage, enfin, etc. Lui qui est transparent. Il y a un autre frère. Tiens, j'ai du mal, hein. Il y a décidément Adil qui est taxi, lui aussi, bon. Alors, et puis la sœur, qui s'occupe de tout, qui veut s'occuper de tout, jouée par Myriam Serba, c'est sa mère, hein, voilà. Et on a donc tout ce monde-là, la fratrie, leurs enfants, ça finit par vous constituer un groupe d'une quinzaine de personnes, facilement. Voilà, c'est un groupe... C'est un peu le moi qui étais longtemps prof, c'est un peu le groupe classe idéal, 15. Parce que c'est suffisant pour maintenir une dynamique, et puis c'est pas trop pour pouvoir quand même discuter avec les gens, quoi. Puis les voir individuellement. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque personnage finit par trouver sa place dans le groupe. Si bien qu'au bout d'un moment, on sait plus qui dit les miens. Normalement, je pense que les miens, c'est les miens de Riyad, Roche Dizem, qui parle des siens. Qui doivent devenir un peu plus les siens, d'ailleurs. Il faut qu'il atterrisse de sa télé, là, pour revenir un petit peu sur Terre, quoi. Mais très vite, on s'aperçoit que chaque personnage pourrait revendiquer ce dénominatif, les miens. Hein, c'est les miens du garçon de Moussa, c'est les miens de la fille de Moussa, etc., qui ont besoin, qui sont en attente des autres membres du groupe, et finalement, ça passe pas bien, c'est pas huilé, partout, ça, il y a des... Et Roche Dizem filme ça admirablement. Il paraît donc parler de Maïwenn, qui a participé à l'écriture, il paraît que Maïwenn avait exigé que pour chaque personnage, on élabore une fiche, avec toutes ses caractéristiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Moussa, il est directeur financier d'une boîte, il fait beaucoup d'heures, il est gentil, il a tant d'enfants, il a deux, etc. Pour qu'ensuite... dans le jeu, les caractéristiques de tous les personnages soient bien fixées, y compris dans la tête des acteurs. Voilà. Et donc, ça fixe effectivement bien les personnages, ils collent à eux-mêmes d'une certaine manière. Et alors, il y a un procédé. Alors, j'ai été réveillé à ce niveau-là parce que j'entendais une interview de Juliette Binoche qui disait qu'elle voyait un contraste entre série et cinéma. Parce que dans les séries, on tournait avec deux caméras et au cinéma, avec une seule. Alors, bon, je l'ai appris. Et là, au générique, je vois défiler le générique et je vois deux caméramans. Alors, je lui dis, tiens, c'est filmé deux caméras. Alors, j'ai été gratté un petit peu. Et il se trouve qu'effectivement, ça permet à Roche Dizem, les deux caméras, de filmer le groupe dans son ensemble très souvent. Si bien que pendant les scènes, qui sont des plans-séquences assez longs à chaque fois, pendant les scènes, les acteurs sont obligés de porter le personnage, même s'ils ne sont pas sûrs du tout d'être à l'image. Ils ne savent pas. Alors ça, je pense que ça donne cet effet de groupe multipolaire qui est du coup extrêmement vivant et fait qu'on a envie de s'intéresser à la destinée de chacun de ces personnages. On veut vraiment savoir si, décidément, ma pauvre mémoire, si la fille de Moussa, peu importe, va pouvoir aller au Canada faire ses études, si Moussa, il va daigner faire le chèque pour la caution, quoi. Parce que lui, les études de sa fille, ça suffit, quoi. Voilà. Et donc, c'est un film que, pour ces raisons-là, franchement, et tout à fait honnêtement, bien sûr, je conseille.
Les miens, donc de Roche Dizem, à découvrir entre autres au foyer à Rosières. C'est aujourd'hui à 20h30, comme au ciné 7 à Ruons. Il arrivera sur les écrans du navire à partir de dimanche. Et ce sera à 20h45. Voilà pour ce film. On va continuer avec Black Panther, Wakanda Forever. C'est le deuxième, c'est ça ?
C'est le deuxième. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah oui. Petit résumé quand même. Donc, le Black Panther, donc, c'est un super-héros issu de l'univers Marvel. Et ça a été le premier héros noir chez Marvel. Enfin, je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas d'autres, à ma connaissance, je ne pense pas. Donc, ça a été une petite révolution à l'époque et une révolution plus récente au cinéma où tous les super-héros Marvel étaient hommes, blancs, etc. etc. Le Black Panther, c'est le roi et protecteur d'un royaume imaginaire africain qui s'appelle le royaume de Wakanda, qui est riche d'un métal qui s'appelle le vibranium, qu'on ne trouve que dans ce pays-là. Et ce métal a des propriétés, on ne va pas s'étendre, mais des propriétés tout à fait intéressantes pour les armées, et donc il est convoité par toutes les puissances du monde, et évidemment... Le Wakanda, qui est un tout petit pays, le protège très très fortement avec l'aide de son Black Panther, de façon à ce qu'il ne soit pas accaparé par de mauvaises mains avec de mauvaises pensées. Donc ça, c'était le premier film. Il y avait toute une aventure comme ça, The First, avec donc le roi T'Challa et ce personnage de Black Panther. Dans le deuxième, la vraie vie s'est immiscée dans le scénario, ou le contraire, puisque Chadwick Boseman, qui jouait qui est l'acteur américain qui interprétait le Black Panther, est décédé. Et donc évidemment la question se pose, est-ce qu'on le remplace, et bon, c'était un peu compliqué et tout, et ça je trouve ça assez intelligent. On a choisi de plutôt réécrire un scénario, et c'est vrai que le film commence par quelque chose de très émouvant, donc mélange fiction et réalité. Dans le film, le roi T'Challa, Black Panther, meurt au début du film, voilà, et on a les funérailles. Et en même temps, ce sont les funérailles de l'acteur. C'est vraiment un très, très bel hommage. Alors, c'est filmé avec énormément de moyens, de figurants. C'est somptueux, des musiques ethniques superbes. Et c'est vrai qu'on est tout de suite plongé dans quelque chose de très, très émotionnel. Donc ensuite arrive l'histoire. Alors en deux mots, toutes les nations donc auraient bien besoin de ce vibranium, enfin besoin, je sais pas, envie en tout cas et tout. Ouais. Et donc comme elles ne peuvent pas le trouver dans ce pays-là, au Wakanda, elles cherchent un peu partout sur la planète et on trouve du vibranium au fond d'un océan. Alors chose qu'on pensait complètement impossible, sauf que au fond des océans existe une cité que personne ne connaît, donc qui est très inspirée de l'Atlantide, qui sont les descendants mutants de tribus mayas. Qui au moment où elles étaient décimées par les Espagnols, par les conquistadors, pendant la conquête de l'Amérique du Sud, trouve une plante, etc., bon, peu importe, mais a réussi à muter pour vivre au fond de la mer. Et donc, comme ils se sentent menacés, il va y avoir tout un scénario qui se met en route et qui va provoquer un affrontement avec le Wakanda, qui n'a plus de protecteur. Et voilà. Donc, alors, relativement original, parce que Black Panther, le film, dure 2h40. Ouais. Et le ou la Black Panther ne va arriver que dans les 40 dernières minutes. Donc c'est un film qui est assez différent des derniers films Marvel qu'on a vus, qui sont pleins de bruit et de fureur et tout. Bon, ici il y a une bataille finale qui est un peu longue peut-être, mais c'est dans le contrat, on peut pas faire autrement. Mais avant tout, c'est vraiment un film de scénario qui prend son temps. Il n'y a pas énormément, enfin il y a des scènes d'action sur 2h40, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de diplomatie, il y a énormément de choses comme ça, et ça change un peu, et j'avoue que moi j'ai vraiment fonctionné sur ce film alors que j'y allais un peu par devoir, on va dire, pour Fréquence 7 et puis pour me faire plaisir. Donc au final on a un film, alors un très grand spectacle avec des paysages vraiment très impressionnants, une bande son vraiment magnifique, sauf, alors moi c'est mon goût personnel, sauf à la fin la musique de générique par Rihanna, ça tranche un peu avec le reste du film.
C'était aussi dans le contrat peut-être.
Voilà, mais on n'est pas obligé de rester jusqu'au bout du générique, voilà. Et au final, on a un film assez réussi sur le deuil, sur le désir de vengeance, qui est quand même ancré dans notre monde actuel, qui va pas bien, et qui nous laisse le temps de bien suivre un scénario dense et bien construit, et d'admirer ces paysages, voilà. Donc moi je le conseille.
Oui, alors j'ai lu, je me tourne vers toi parce que ça m'a choqué, je regardais un peu les critiques, etc., etc., et j'ai lu une des meilleures productions Marvel qui ose enfin laisser le cinéma d'auteur se fondre dans le divertissement. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Oui, pas loin. Bon, il y a les Marvel et puis il y a l'autre marque concurrente, voilà. Non, je pense que par exemple le dernier Batman était très très supérieur à ça. Le Joker qu'on a vu il y a 2 ans, là, je crois, était largement supérieur à ça. Mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on est très très loin des films purs d'action avec des scénarios qu'on a vus 500 000 fois. Là, on est Alors évidemment c'est aussi un film, on est à une époque où il faut cocher des cases au cinéma, hein, vous avez vu, donc là on coche le case femme, noir, colonialisme, etc., etc. Mais ça pourrait être agaçant, mais pas du tout, ça fonctionne bien. Quoi.
Très bien, eh bien, on va encore rester un peu dans Cinémascope, voici Reste un peu.
Ça va, on passe.
Il me dit, Gad, il rentre définitivement. Non, tu retournes après à...
Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore.
Pourquoi faire ?
J'ai une chambre là-bas.
Mais c'est la chambre des petits.
Pourquoi toi, tu es quoi maintenant ? Un grand. Reste avec nous, chérie.
Balance, pourquoi t'es revenu ?
C'est chaud, j'arrive pas à le dire.
T'es pas malade, j'espère ?
Non, je suis pas malade.
David ? David !
J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser.
T'es pas sérieux, là ?
Tu veux pas te convertir au catholicisme ?
Mais c'est quoi, ça ?
J'ai trouvé dans la valise de Gad.
Touche pas avec les doigts !
Tu changes de Dieu, change tes parents, fais-toi adopter.
On n'a pas envie de te perdre.
Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie.
Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix.
C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils.
Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là ? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder.
La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé.
Ça va ?
Je suis en train de répéter un truc, je me prépare en fait.
Non, mais il faut me sortir.
C'est une compétition d'apnée.
Voilà, avant de parler quand même de Reste un peu, j'ai oublié de vous signaler que le Black Panther Wakanda Forever est au navire et que vous pourrez le voir soit ce soir dans une version française à 20h45, soit dans la version originale sous-titrée dimanche à 20h30. Et ça doit être beaucoup plus intéressant,
absolument,
je pense. Alors, Reste un peu, Olivier, film de Gad Elmaleh. Bah, tout à l'heure, on était déjà dans de la biographie et ouais. Nous revoici dans de la biographie.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, moi, j'étais un peu, quand j'ai vu ce film arriver, j'étais un peu dans l'hésitation. Je me demandais dans quel mesure c'était autobiographique, c'était pas, enfin dans mon esprit en tout cas, c'était pas clair. Alors apparemment, on est vraiment dans l'autobiographie, c'est-à-dire c'est bien Gad Elmaleh qui revient en France après un séjour professionnel, quand même essentiellement aux États-Unis. Hein, il a voulu I'm American, comme il dit dans un de ses sketchs. Voilà, il a voulu faire l'américain. D'ailleurs, quand il revient, il retrouve une bande de potes dans un bar qui est en même temps comedy club un petit peu. Et parmi ses potes, bah, il y a Roche Dizem qui est venu faire un petit clin d'œil. Et c'est là qu'on voit quand même là, le niveau de Roche Dizem. Moi, je suis baba quand je le vois jouer ce garçon. Ce garçon, c'est vrai que j'ai un peu âgé, mais bon, quand même. C'est-à-dire, il a quelques minutes là à jouer un des potes de Gad Elmaleh. Et on est embarqué. C'est vraiment fou. Alors, Gad Elmaleh arrive. Il descend, mais comme on dit, non pas à l'hôtel, quoi que c'était ce qu'il voulait faire, mais chez ses parents. Donc, sa maman, jouée par sa maman, son papa, joué par son papa, sa sœur, jouée par sa sœur, ainsi de suite. Et il s'avère, finalement, assez rapidement, que s'il est revenu, c'est essentiellement parce qu'il a pris conscience aux États-Unis que depuis pratiquement le début de sa carrière, il était accompagné par Marie, la Sainte Vierge, la maman de Jésus. Voilà. Message. Mais alors, auprès de la famille juive traditionnelle, c'est Farad, ça passe moyen. On peut pas se le cacher. Parce que d'abord, il y a la tradition juive qui est là remise en cause d'un coup sec par le fils. Et puis, alors, le fils, le seul garçon dans la famille, c'est quand même pas rien. Il nous fait la blague de partir chez les cathos, ça va pas du tout. Et le problème, c'est que ça a l'air tout à fait sérieux, c'est-à-dire que Gad Elmaleh demande le baptême. Il s'est converti par la Vierge Marie et il entend bien se faire baptiser. Dans la bande-annonce, on a ses entraînements à l'immersion. Ce n'est pas pour une compétition d'apnée, c'est bel et bien pour un baptême par immersion. Voilà. Donc, y a des critiques qui ont rapproché ce film du cinéma de Nanni Moretti. Alors, c'est peut-être aller un peu loin. En plus, je suis un fan absolu de Nanni Moretti. Mais en tous les cas, ce film est désigné comme une comédie et on est très très loin des grosses comédies de Gad Elmaleh comme Chouchou, Coco et compagnie. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, on me demande de me dépêcher. Oh. Quelle idée! Et si je cultivais un esprit de contradiction? Non, pas du tout, j'essaye de me dépêcher. Je crois que le mérite du film, qui est réel, le mérite du film, c'est de présenter à la fois, et tout à fait sérieusement pour le coup, bien qu'il y ait d'humour, c'est une comédie, mais de présenter tout à fait sérieusement, et c'est pour ça que j'ai été le voir d'abord ce film, un parcours spirituel personnel. Voilà notre Gad Elmaleh qui est juif un petit peu par tradition, avec quand même un élément de foi qui accompagne sa religiosité juive et qui a une expérience spirituelle et une expérience spirituelle très précise, la rencontre avec la Sainte Vierge. Et si vous voulez, ce que je trouve très beau dans le film, c'est de parvenir à nous partager un itinéraire spirituel personnel, c'est-à-dire unique, singulier. À la fois quelqu'un qui a vécu un tel itinéraire, j'en connais d'assez proches, si vous voulez, reconnaissent les éléments d'une conversion, tout en voyant bien que c'est celle de Gad Elmaleh et pas la conversion lambda, etc. Et à côté de ça, ce parcours spirituel personnel singulier, il est contextualisé. Et on a l'histoire des grandes religions du livre, on a les rapports de ces religions entre elles aujourd'hui. C'est très riche, mais je ne plaisante pas, c'est vraiment riche. On comprend des tas de choses. On parlait hors antenne du rabbin Delphine Orwiller, voilà, qui parce qu'il y a de la théologie, c'est vraiment très 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 beau. Il faut savoir, donc, en gros, pour un juif, la Sainte Vierge, c'est une juive lambda qui a vécu en Palestine, voilà. Et puis, pour des musulmans, c'est carrément de l'idolâtrie, quoi. C'est l'horreur. Mais dans les deux cas, les gens autour, Bien sûr que Mariam, pour les musulmans, c'est très important, bien sûr. Mais quand on compare à comment dirais-je, au culte marial des catholiques, alors là, nous, les catholiques, sur Lyon en particulier, si vous voulez avoir un aperçu, allez le 8 décembre à Lyon, vous allez voir ce que c'est que le culte marial. Pour un musulman, c'est vraiment très proche de l'idolâtrie. Donc je trouve que Gad Elmaleh réussit cette chose-là, et c'est pas rien, de présenter un itinéraire spirituel singulier et de donner en même temps un contexte religieux général. Voilà.
Ben, allez voir, alors reste un peu, même si tu as dû faire court, tu resteras un peu encore, Olivier, avec nous.
Ouais, ben justement, d'autant plus.
Alors, au ciné 7 à partir de dimanche, mais sinon dès aujourd'hui, au navire à 18h, navire à Aubenas, Vivarais à Privas, à 18h30. Alors, autre parcours, un peu moins peut-être catholique, celui-ci, c'est celui de Rimini.
Oui, on va aller dans une autre dimension. Rimini, c'est le nouveau film de Ulrich Zedel. Alors, les spectateurs les plus pointus, albanaciens se souviendront qu'il était venu aux Rencontres il y a une dizaine d'années maintenant. Donc Ulrich Zedel, pour le situer très rapidement, je pourrais dire que c'est peut-être le réalisateur le plus misanthrope que je connaisse. Voilà, donc qui nous montre dans chacun de ses films une humanité malheureuse, laide, triste, méchante, sadique parfois. Donc il y a pas beaucoup d'espoir chez Ulrich Zedel.
Effectivement, hein. Sur une autre planète.
Voilà, donc les films Dog Days, Import-Export et un des derniers qui m'avait moi beaucoup plus, qui était un documentaire Sous-sol, où il filmait les sous-sols de gens complètement barges, quoi. C'est incroyable ce qu'on trouve dans des sous-sols, y compris des anciens nazis, des pro-nazis, des choses comme ça qui, ben, voilà. Et donc là
ça sent bon le petit film de Noël.
Là nous sommes à Rimini, donc sur une côte en Italie, sur une côte de l'Adriatique. Hors saison, donc il fait froid, il y a du brouillard, et survit à Rimini Richie Bravo, qui est un quinquagénaire sur le retour, et qui survit en faisant le crooner pour des vieilles dames esselées, en faisant le gigolo aussi pour les mêmes vieilles dames, et quand vraiment il faut trouver encore un peu plus d'argent, en faisant le maître chanteur. Voilà, donc
alors, de tout.
la petite partie d'humanité du film, c'est que arrive sa fille, débarque sa fille qu'il n'a pas vue depuis très très longtemps et qui lui dit « J'ai des soucis, il faudrait que tu me donnes tout l'argent que tu n'as jamais dépensé pour moi. » Donc, ce qui va ouvrir une petite vanne. Mais c'est vraiment un film avec très peu d'espoir. C'est une vision exacerbée, hein, une espèce de miroir de la société selon Ulrich Zedel. Et je trouve que ce qui fonctionnait moi parfaitement dans ses précédents films est beaucoup moins réussi ici, comme s'il avait fait le tour du sujet, même si c'est un sujet dont on ne fait jamais vraiment le tour, et qu'il répétait encore une fois la même chose, mais sans l'originalité de ses films précédents. Et puis en plus, il y a quelque chose moi qui m'a un peu gêné quand même dans le film, c'est un regard ambigu sur des réfugiés syriens qui parcourent le film comme ça, qui sont posés, qui vont finir par même envahir un peu sa vie, et dont on sait pas bien, mais c'est pas clair, quoi. C'est pas très très net comme histoire. Alors reste une très belle photo, parce que chez Ulrich Zedel, c'est dire la mocheté humaine, si j'ose dire, s'accompagne toujours d'un soin très très esthétique, de très très beaux plans, à beaucoup de plans séquences. Et je dirais que ce film s'adresse quand même là aux inconditionnels de Zedel, et que pour les autres, y compris ceux qui ne le connaissent pas, je conseillerais presque de retourner un peu en arrière et de voir sa trilogie Amour, Dog Days.
C'était toute la série Paradise aussi.
Voilà, c'est ça. Donc Paradise, okay. Amour, voilà, Import-Export, qui est un film très très dur mais très beau, et puis Sous-sol, Dog Days, bon, et les autres.
Rimini à découvrir toutefois ce vendredi à 20h45 au cinéma de la Vire, ou encore dimanche à 17h30. Le temps passe vite, on va se projeter tout de même. C'est vrai que le temps passe vite, 36 ans en arrière. avec une nuit noire pour la France, pour l'histoire de la France. C'était il y a vraiment quasiment 36 ans, puisque c'était du 5 au 6 décembre 86, en pleine, je veux dire, en plein remous contre la loi Devaquet.
Gros remous
contre la loi Devaquet, ministre à l'époque. Alors, je ne sais pas si on disait ministre de l'Éducation.
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Voilà, exactement. Eh bien, Malik Oussekine allait mourir. Et il n'était pas le seul.
Non. Deux jeunes hommes, la même nuit. Abdel, qui prend une balle, tirée par un policier ivre. Et pas que ivre. Visiblement, il n'avait pas besoin d'avoir bu pour être un petit peu... Bon, on ne va pas dire des gros mots au micro. Et puis Malik Oussekine, évidemment, qui est emblématique, dont tout le monde a retenu l'histoire. Lui, il est battu à mort, finalement. Alors peut-être qu'il est mort parce qu'il était sous dialyse, parce qu'il s'était dialysé, comme on dit. Enfin, je n'aime pas beaucoup l'expression. Mais comme disait Maître Klejman, son défenseur, son avocat, enfin l'avocat de sa famille, s'il n'avait pas pris les coups, il ne serait pas mort. Donc il est bien mort des coups. Voilà. Mmh. On va être rapide quand même. Et là, des coups administrés par un peloton de policiers mobiles sur des motos tout-terrain.
Les voltigeurs.
Des voltigeurs.
Une création de Pasqua.
Voilà. Là, on a Pasqua dans toute sa splendeur. Ouais, c'est la brutalité, la bêtise, la réaction au sens le plus direct du terme. Enfin, voilà. Et donc, ce sont des escadrons de motos avec un pilote et un manipulateur de matraque qui qui a pour mission de nettoyer les rues. Mais alors dans le nettoyage, dans l'entreprise de nettoyage, évidemment, on peut tomber sur ce jeune Malik Oussekine qui sort simplement d'un petit concert tranquillement et qui est rue Monsieur le Prince à Paris dans un quartier qui n'est pas, pas spécialement. Alors, nos frangins, c'est ça, c'est Abdel et Malik qui sont morts la même nuit. Et puis ce sont leurs frères et sœurs à eux. Et puis par extension, ce sont tous les jeunes... Et puis par extension encore, tous les Français qui, déjà dans la rue pour lutter contre la loi Devaquet sur l'enseignement supérieur, c'est Monory qui est ministre de l'Éducation nationale à l'époque, autre grande figure de l'Éducation nationale, on lutte pour ça et en même temps la lutte se convertit en une espèce de gigantesque hommage à Malik et à Abdel. Vous avez dans les rues tous les gens qui en ont assez de la République limite bananière, justement des Pasqua et consorts. Quoi. Voilà. Vous avez aussi dans les rues tous les déçus du socialisme, enfin les déçus de Mitterrand en fait, pas du socialisme. On n'a pas expérimenté le socialisme, on peut pas dire qu'on a été déçus par le socialisme, mais déçus par Mitterrand. Ô combien et pour d'excellentes raisons. Donc on est à l'époque de la création des SOS Racisme, 84, de la mort de Malik, bien entendu, 86, de la loi Devaquet qui sera retirée le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, en 86 également. Voilà, c'était hier, vraiment. Et donc c'est une plongée... fort bien réussi, à mon avis, par Bouchareb, dans cette époque, avec l'utilisation d'images d'archives, avec des scènes filmées à la caméra vidéo. Et il entretient, évidemment volontairement, une sorte de confusion entre les images de l'époque et ses propres images, à tel point, dit-il, et c'est juste, qu'il n'a pas eu besoin de faire années 80 dans le décor et compagnie, parce que, justement, dans le mélange, tout passe. Et alors, évidemment, pour quelqu'un comme moi qui terminait ses études à cette date-là, précisément, 86, c'est un véritable voyage dans le temps. Voyage dans le temps pour... occasion de réfléchir à ce qui, très précisément, à ce qui s'est passé alors. Effectivement, la police a tué, il faut quand même le dire simplement. Vous avez donc dans le film, à côté de ce collectif, vous avez des personnalités, et en particulier l'inspecteur de l'IGPS, l'inspection générale des services de police, qui campe un personnage qui voudrait bien mettre un peu plus de lumière dans cette histoire et qui se heurte au pilier de cette République bananière dont je parlais à l'instant. Donc très bien fait, avec pour confirmer ce voyage dans le temps, la musique de Amin Bouafa. Et puis des titres de l'époque, hein, de La Mano Negra, d'Erita Mitsuko, de Renaud, bien sûr, la petite, puis d'une chanteuse algérienne que je ne connaissais pas, j'avoue, enfin, j'ai reconnu dans le film, mais je ne pouvais pas la nommer, Varda. Voilà. Donc, on a l'ambiance musicale qui va avec pour un film qui, à mon avis, a le mérite de faire réfléchir, mais de faire réfléchir pratiquement au sens d'une méditation, presque d'une prière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer dans une société comme la nôtre. Alors évidemment, c'est moins glorieux pour la police que Bac Nord ou Novembre, on est bien d'accord, mais ça rétablit un peu l'équilibre et c'est pas plus mal, et c'est pas pour ça qu'on veut pas de policiers, et que, voilà. Mais simplement, quand ça dérape à ce point-là, c'est plus qu'un dérapage. Quand on touche à la catastrophe comme ça, il faut le dire.
Il faut juste rappeler qu'à l'époque, Pasqua avait dit à ses sbires qu'il les couvrait quoi qu'il se passe.
C'est ça. Et c'est ce qu'il fait.
Et c'est ce qu'il fait, ouais.
Oui. Et c'est pour ça que le film est utile. Pour montrer qu'en France, il y a
36 ans.
Voilà. Eh ben, on peut tranquillement. Et puis, alors, il faut entendre. Il y a des images d'archives de l'Assemblée nationale. Il faut entendre Pasqua à l'Assemblée nationale. On se pince quand même. Dieu sait qu'on entend beaucoup de conneries en ce moment. Mais alors, c'est, pour moi, ça a le mérite de ne pas être violent comme c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Nos frangins au navire, aujourd'hui comme demain, aujourd'hui 18h15 et 21h, de Rachid Bouchareb, hein, donc on le rappelle, ce film sorti cette semaine, ce 7 décembre. Allez, un petit détour que l'on doit faire rapidement, mais sur des années qui passent elles aussi, avec du ciné-club actuellement à découvrir,
oui,
à redécouvrir.
Trois bons films, ouais, sur les écrans ardéchois. Alors le premier, Le Bal, d'Ettore Scola, 1983, ça ne rajeunit pas non plus. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et c'est un film rare parce que pas du tout commun. Nous sommes dans une salle de bal où nous allons assister à travers un bal, enfin à travers des bals, à 50 ans d'histoire française. Donc on commence dans les années 30 jusqu'aux années 80. Donc on va avoir le Front populaire, on va avoir la guerre, l'occupation, la libération, mai 68, etc. Il n'y a pas un seul dialogue, pas une seule parole, que des musiques. Et c'est un véritable bonheur. Donc c'est à la fois un film historique, c'est à la fois un film nostalgique, c'est à la fois un film plein de pêche. Donc à voir, à revoir, un véritable bijou. C'est au Vivarais, samedi à 15h.
Vivarais, voilà. À Priva. Donc
à Priva, oui, bien sûr, hein. Donc je rappelle juste Ettore Scola, Affreux, sale et méchant, Nous nous sommes tant aimés, Une journée particulière, un des réalisateurs italiens de l'époque, parmi les plus intéressants. Complètement autre chose, Pierrot le Fou. Donc Godard est parti il n'y a pas longtemps, donc je pense que c'est dans le cadre d'un hommage. Là, cette fois, c'est au Regain. C'est aujourd'hui au Regain, au Teil. C'est aujourd'hui à 18h. Donc Godard a déjà réalisé 5 ou 6 films, dont Le Mépris. Et il tourne là cette sorte de road movie, de Bonnie and Clyde, avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karenine. Bon, l'histoire est, comme souvent chez Godard, ce qui est intéressant, c'est pas le scénario, c'est ce qu'il en fait autour. Donc c'est un film de cinéma qui invente énormément de choses. Le regard spectateur, c'est-à-dire Belmondo qui s'adresse au spectateur, on n'avait pas vu ça avant. C'est un film sur la peinture, sur la couleur, c'est un film sur la littérature, c'est un film qui va partout, c'est un film qui casse absolument toutes les règles établies du cinéma, c'est plein de faux raccords volontaires. Donc c'est vraiment à découvrir, c'est un film de plaisir en même temps, qui a influencé, je crois que c'est le film de Godard peut-être qui a influencé le plus de réalisateurs, y compris le grand admirateur de Godard qui est Quentin Tarantino, en particulier de ce film.
Effectivement, c'est dans le cadre d'une rétrospective au Regain à Auteuil avec 6 films marquants de la carrière de Jean-Luc Godard.
Ça, j'avais pas capté. Ah, bah, formidable.
Et Ma base sur la ville.
Et Ma base sur la ville de Francesco Rosi. Alors là, je l'ai pas revu depuis un petit bout de temps. Je me souviens que c'est un film sur les collusions mafia-politique autour de la reconstruction des faubourgs de Naples. Mais un film très très intéressant également. Je me demande, c'est pas le premier film d'ailleurs de Francesco Rosi. C'est
je ne sais pas. 63.
Ouais, ouais. Non, c'est pas le premier. C'est un film qui, en tout cas, qui à l'époque avait fait. On en avait énormément parlé. Quoi.
Donc ce sera mercredi à 18h, Ciné-Club au Vence, mercredi 14. D'autres infos très très rapidement.
Oui, Auteuil, on a parlé du Teil là tout à l'heure. Un documentaire 140 km à l'ouest du paradis, signé Céline Rouzet. Et samedi 10 à 21h, donc au Regain, il y aura la réalisatrice qui sera présente et qui, ce sera l'occasion d'une petite plongée à nouveau dans les ravages du capitalisme, mais cette fois-ci en Nouvelle-Guinée. Donc c'est samedi 10h à 21h au Regain. Et juste pour les enfants, mercredi 14 à 15h30 au Ciné 7 à Ruyons, un ciné-goûter avec le tigre qui s'invita pour le thé à partir de 3 ans. Très chouette.
C'est encore les vacances, mais c'est presque les vacances. Voilà, donc on peut y aller mercredi.
4 courts-métrages.
Au total. Ouais. Merci Sophie, merci Didier, merci Olivier, merci Sylvain, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même horaire, 12h10 et 17h10 pour Cinémascope. D'ici là, belle semaine cinématographique à tous et toutes. Voilà, c'est dit.
Merci.
Ouais.
À la semaine prochaine.
Merci Laurent.
Tu restes un peu.